Faut que je t'avoue un truc, j'ai failli devenir un gourou. C'est tellement facile d'avoir de l'emprise sur les gens. Si t'as un ego bien développé, une certaine tendance à la mégalo, un besoin d'être au centre, d'avoir raison et de tout contrôler, alors t'es dans de bonnes dispositions pour devenir un gourou. Et si, en plus de ça, t'es cultivé, t'aimes raconter des histoires, citer des exemples personnels de trucs incroyables qui te sont arrivés à toi ou à tes clients, que tu sais convaincre, créer de la confusion, faire des raccourcis et orienter la réalité dans le sens de tes convictions, t'as de sacrés atouts. Il ne te reste plus qu'à développer une certaine connaissance de l'humain et de ses biais et à prendre quelques techniques d'hypnose et de manipulation. Tu pourras alors rejoindre ton futur disciple là où il a mal, calibrer ses réactions, identifier ses souffrances profondes et appuyer dessus, avant de lui faire miroiter qu'il a un potentiel incroyable tapis au fond de lui, et que grâce à un savoir qui t'a été révélé, peu importe que ce soit par les esprits de la nature ou à l'occasion de derniers livres que t'as lus, tu vas lui montrer le chemin de la libération. Un gourou, c'est pas forcément un escroc. Je veux dire, certains sont sincèrement convaincus par ce qu'ils racontent. Ça ne les rend pas moins inoffensifs. Mais personne ne pourrait devenir un gourou si en face, il n'y avait pas des gens disposés à devenir des adeptes. Parce qu'un gourou n'a aucun pouvoir à part celui que tu lui donnes. Et c'est ça qui est le plus flippant au fond. Notre putain de disposition à croire aux miracles et aux solutions magiques quand il s'agit d'éviter les deuils et les souffrances, et notre capacité étonnante à devenir des enfants dociles, pour ne pas dire des moutons, et enterrer notre esprit critique et notre discernement. Cette tendance à devenir un mouton, je t'avoue, je l'ai aussi. Tout petit déjà, j'étais en recherche de maîtres, de guides, de modèles. Je pourrais sans doute identifier les failles psychiques sur lesquelles s'est construit mon besoin d'idéalisation des figures d'autorité. Mais le constat, c'est que j'étais un fan en recherche d'idoles à vénérer. Très religieux jusqu'à mon adolescence, j'ai ensuite basculé dans l'athéisme et l'anarchisme, mais avec la même mécanique. Je continue à voir le monde en deux camps, celui des ignorants et celui des éclairés. Et quand, des années plus tard, j'ai perdu ma mère, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Et je crois que j'y suis un peu entré comme on rentre en religion, poussé par une quête spirituelle. J'avais l'impression d'y avoir enfin découvert les clés pour comprendre le monde. Et lorsque mes relations avec ma femme se sont tendues, parce qu'elle me reprochait d'avoir un jargon et des réactions qui ne me ressemblaient plus, ça n'a fait que me conforter dans le fait ou dans l'idée qu'elle ne pouvait pas comprendre. Forcément, elle n'était pas aussi éclairée et avancée que moi. Plus tard, je suis passé d'élève à formateur. Et lorsqu'en Égypte, j'ai commencé à donner mes premiers stages d'écriture, j'ai réalisé à quel point c'était très difficile de résister à la tentation de devenir un gourou. C'est tellement flatteur pour l'ego d'avoir des clients ou des stagiaires qui t'admirent, qui te voient comme un mec génial, que tu peux vite te retrouver prisonnier de cette posture. Entre l'admiration et l'idolâtrie, la frontière est faible, et je me suis retrouvé face à des stagiaires qui buvaient mes paroles ou me demandaient des conseils comme si j'étais détenteur de la vérité suprême, à confondre mon point de vue avec la vérité. Demain, je te parlerai de ce qui m'a permis de ne pas devenir un gourou, malgré mes prédispositions. Mais ce que je voudrais te dire, c'est qu'on a une responsabilité partagée, toi et moi. Celle de résister à la tentation de devenir des gourous et de nous libérer de notre prédisposition à être des moutons.